des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Acteur de changement, il est tourné vers l'innovation. Il ne se contente jamais de peu. Il pousse l'information dans les moindres détails. Guillaume Lavoie.
Bonjour, merci d'être à l'antenne de Cube Radio. Heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de, parce qu'on a souvent cette conversation-là ensemble, d'enrichir la conversation nationale, de se donner les outils pour que on puisse débattre sur la base de choses qui sont vraies, qui font du sens et qui comptent. Et dans plusieurs juridictions, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un débat sur le budget. Est-ce qu'on devrait dépenser plus ici, plus là? Est-ce qu'une annonce gouvernementale est frivole où elle nous engage vers des années de déficit ou encore un certain nirvana? On entend dans le débat public, évidemment, les points de vue de l'un et de l'autre. Et tout ça, c'est sain. Du moment que l'on débat sur une base qui est à la fois commune, solide, crédible, et ensuite, on débattra intelligemment et correctement. Dans les questions budgétaires, aux États-Unis, ils ont un officier du budget qui, lui, relève non pas de l'administration, mais du Congrès. Son travail, c'est de fournir au Congrès les meilleures informations budgétaires possibles. On a importé la chose au niveau fédéral canadien. Il s'appelle le directeur parlementaire du budget. Son travail, c'est de fournir les chiffres, les vrais, sans artifice, et d'analyser sur la base des prévisions fournies par le gouvernement, si ça se tient, afin de donner aux députés, aux législateurs, les moyens de débattre correctement et avec encore plus de pertinence. Mais vous savez, de tous les chiffres les plus importants, la chose la plus déterminante pour ce qui s'en vient, c'est la démographie. La démographie, ça mange tout le reste au petit déjeuner. En anglais, on dit « demography is king ». C'est la démographie qui enligne tout le reste. Par exemple, il y a combien de naissances? Bien, si vous savez il y a combien de naissances, vous pouvez prédire presque au nombre près combien il y a d'enfants qui sont supposés entrer en première année dans 6 ans. Vous pouvez prédire presque au nombre près combien il y en a qui vont arriver au secondaire, ou tout le monde espère qu'ils vont se rendre là. Ça nous permet de prévoir est-ce que je vais avoir trop de place dans les cégeps ou pas assez. Est-ce que je dois prévoir plus de transports collectifs? Quel type de transport collectif, plus adapté ou moins? Comment envisager l'occupation du territoire? Bref, les très grandes questions et la plus grande des plus grandes ou la plus chère des plus chères, c'est les dépenses de santé. Et pourquoi je vous dis ça? On a une génération qui s'appelle les baby boomers, dont les plus vieux ont à peu près 75 ans, dont les plus jeunes ont à peu près 50 ans. Et vous savez que si vous consommez 100 $ de services de santé dans votre vie, vous allez consommer 95 $ à peu près dans les dernières 5 ans de votre vie. Donc, est-ce que maintenant, c'est le temps de faire plus de maisons des aînés, plus de CHSLD, d'embaucher plus d'infirmières et de médecins? Mais est-ce que dans 25 ans, on en aura trop? Ça nous prend la base pour pouvoir débattre du reste correctement. Aux États-Unis et au fédéral, on s'est donné un directeur parlementaire du budget. Je nous propose collectivement que l'on se dote d'un démographe en chef qui sera capable de nous donner les vrais chiffres et qui le fera d'une posture crédible et utile, c'est-à-dire qu'il relève non pas du gouvernement, non pas d'un think tank, non pas d'un groupe à gauche ou à droite, mais qui relève de l'Assemblée nationale et dont le travail sera d'alimenter à chaque année, dans un rapport, l'ensemble de la population en général et les élus. Voilà ce qui, je pense, contribuerait infiniment positivement à enrichir la conversation nationale.
Passionné d'art urbain, de boutons de manchette et de véloconomie, Guillaume Lavoie n'a pas fini de vous surprendre.
Au fédéral, justement, quand on n'est pas en train de s'occuper des juridictions provinciales, de temps en temps, il y a des idées qui sont éminemment d'une mission nationale ou pan-canadienne qui émergent. Et il y a cette idée de relier Toronto à Québec avec un système de train qui est digne d'un pays du G7 plutôt que d'être d'un pays du Moyen-Âge quand il est question du ferroviaire au Canada. On dit souvent, le Canada, c'est un très grand pays, c'est pas comme l'Europe. On oublie de dire que plus de 50% de la population entière du Canada vit entre Toronto et Québec sur cet axe-là. Donc, on a toutes les conditions réunies pour avoir véritablement un projet structurant ferroviaire. Et là, vont s'affronter, et c'est dans le débat public ces temps-ci, est-ce qu'on fait un TGF ou un TGV? Mais pour être capable de faire l'ABC du TGF ou du TGV, on en parle avec Pierre Barriot, qui est expert en planification des transports et chargé de cours à l'Université de Montréal. Bonjour, M. Barriot.
Bonjour, M. Lavoie.
Merci d'être avec nous. Alors, dites-nous là, rapidement, là, quelle est un peu la différence ou qu'est-ce qu'un TGF puis qu'est-ce qu'un TGV?
Alors, un TGF, c'est un terme qui désigne à des trains qu'on appellerait en Europe des trains locaux. Alors, c'est-à-dire, c'est des trains qui circulent à une vitesse maximale de 200 km à l'heure, en fait 199 km à l'heure, et qui sont en mesure d'opérer sur les voies ferrées conventionnelles, c'est-à-dire celles qui existent déjà, avec des mises à jour relativement mineures. Donc, quand on va aller plus rapide que 199 km à l'heure, on tombe assez rapidement dans le TGV. Alors là, c'est plus le train à grande fréquence, c'est le train à grande vitesse. Et le train à grande vitesse, ça dépend des juridictions, mais habituellement, on parle de trains qui circulent plutôt de 300 à 350 km à l'heure. Et ces projets-là nécessitent des investissements qui sont bien plus significatifs.
Et là, pour ancrer ça dans le réel chez nous, Montréal-Toronto, par exemple, qui prend au jour d'aujourd'hui un peu plus de 5 heures, en TGF, ce serait toujours à peu près le même temps, mais évidemment avec plus de départs, plus d'arrivées, parce que là, ça fait un peu dur. En TGV, donc grande vitesse, on serait autour de 3 heures à peu près, j'imagine.
Et peut-être un peu moins, tout dépendamment jusqu'à où M. Trudeau est prêt à dénouer les coffres publics, parce qu'on serait en mesure d'avoir même un train qui prendrait environ 2 heures et quart si on se construisait la Mercedes ou la BMW des services.
Mais avant de voir lequel des deux est le plus pertinent, un des drames particuliers du ferroviaire au Canada, c'est que le public ne possède pas l'emprise. On possède pas les rails, ils appartiennent à des sociétés privées, que ce soit le CP ou le CN. Est-ce que si on faisait un TGV, est-ce qu'il faudrait faire une autre emprise loin des rails actuels? Puis est-ce que c'est faisable, ça?
Bien, justement, c'est le problème du TGV. C'est que les trains de TGV ne peuvent pas circuler sur des voies ferrées où il y a d'autres trains qui circulent parce que le différentiel de vitesse est trop grand et les normes de sécurité ne le permettent pas. Il faut donc construire des voies ferrées qui sont parallèles aux existantes. Mais en plus, il y a un autre élément qui est significatif, c'est le rayon de courbe. Les trains de style TGF sont en mesure de prendre les courbes existantes, mais les TGV, ça tourne trop carré. Donc, ça nécessite la construction de nouvelles courbes qui nécessitent des expropriations, des déménagements, des ponts, des viaducs, des ponts supplémentaires.
Donc, faut que ça, un TGV doit être ce qu'on appelle en site propre.
Exactement.
Une fois qu'on comprend mieux la différence entre un TGF puis un TGV, est-ce que toute chose est égale par ailleurs? Il y en a un qui est mieux que l'autre? Parce qu'une des théories en transport collectif, c'est la fréquence qui fait qu'on embarque plus. Parce que, par exemple, je prends l'exemple puis vous me direz si ça fonctionne, le métro versus l'autobus. L'autobus est un très mauvais service parce que la fréquence n'est pas assez bonne, parce que c'est moins prévisible, alors que le métro passe à des fréquences beaucoup plus régulières et comme ça, il est plus attractif. Est-ce qu'on a raison de considérer un TGF ou non? Le TGV, maintenant, dans le monde dans lequel on vit, c'est vraiment la chose, le nouveau standard.
Bien, vous voyez, vous mettez votre doigt sur le problème de l'analyse actuellement entre TGV et TGF. L'analyse actuelle et le paradigme par lequel le gouvernement fédéral oblige les projets à être analysés, c'est que les projets doivent être économiquement rentables et autosuffisants. Donc, le TGF, vu qu'il coûte beaucoup moins cher, on est en mesure de vendre beaucoup plus de billets. Et vu qu'on vend beaucoup plus de billets, on peut augmenter la fréquence. Le TGV, vu qu'il coûte cher, très cher à construire, il faut que les billets soient beaucoup plus élevés le prix. Et dû au fait que les prix sont tellement chers, on est juste capable d'offrir 5 ou 6 départs par jour.
Mais...
alors, si on décidait d'enlever de l'équation le coût de l'immobilisation, mais juste les coûts d'opération, on pourrait avoir un TGV au demi-heure. Mais malheureusement, le gouvernement, nous, dans son carcan d'analyse, nous force à faire la décision entre un lent train fréquent ou un train rare rapide.
Bien, et j'ai l'impression que c'est deux mauvais choix, parce que ce que j'entends que vous nous dites, c'est que l'idéal, ce serait un TGV, donc un train à grande vitesse et à grande fréquence. Puis là, ben, et le fait que Michael Sabia soit là-dessus, là, qui est le père de tous nos problèmes avec le REM, ça me rassure pas. Mais d'où vient cette théorie débile qu'il faut que le transport collectif se paye lui-même? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt réfléchir en termes d'externalité positive, là? C'est-à-dire que puisque les gens vont pouvoir se déplacer plus rapidement, ça contribue au général à améliorer le dynamisme économique d'une région, par exemple. Ce qui est la même chose, pourquoi on ne construit pas des métros parce que le gouvernement veut faire de l'argent. On le fait parce que sinon, l'économie arrête. Pourquoi est-ce qu'on pense différemment quand il est question des trains?
Je suis 100% d'accord avec vous et c'est vraiment ça qui vient plomber toute la réflexion qu'on a actuellement. Vous savez, quand on a construit la Transcanadienne au Canada, on ne s'est pas dit si on fait une autoroute à 4 voies, on promet des péages versus si on met 2 voies. Non, on a regardé c'est quoi l'impact du Canada pour le Canada et c'est quoi l'impact pour le long terme pour le développement économique, social, culturel, écologique, etc. Et ici, c'est la question que le fédéral doit sortir de ce carcan des années 90 des PPP et de cette prémisse de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan que l'État ne peut pas faire de projet déficitaire, parce que des fois, oui, l'État doit faire un projet déficitaire parce que c'est pour le bien public.
Oui, c'est ça. On ne construit pas un hôpital parce qu'on pense qu'on va faire de l'argent avec ça. On pense qu'une population plus en santé est, là, je réfléchis en rentabilité pure, une population plus en santé, c'est plus payant.
Définitivement, définitivement. Et pourquoi est-ce qu'on accepte de construire des routes déficitaires, de facto, parce qu'il n'y a pas de péage, mais les transports en commun, dans le cas de Via Rail, on ne l'accepte pas. Et ici, l'idée aussi, c'est de faire une fois un gros investissement, et après ça, la ligne de TGV au demi-heure, on l'a pour 100-150 ans, et elle sera rentable en termes de couvrir ses frais d'opération. Et c'est ça le vrai développement durable si on veut diminuer l'impact de la pollution de la voiture et de l'avion.
Mais on peut imaginer aussi que la rentabilité par le ticket, là, par le prix que l'on paye pour embarquer dessus, c'est un mauvais modèle d'affaires aussi. On pourrait penser, par exemple, plutôt à capter la valeur foncière, parce que si j'ai un TGV qui me permet, de partir de Montréal puis d'aller à Toronto en 2 heures et quelques ou en 3 heures, mais peut-être que vivre à Montréal est encore plus intéressant, parce que bien sûr, personne ne veut vivre à Toronto. Alors, est-ce que ça, c'est pas une manière de le penser différemment aussi?
100% d'accord avec vous, puis on retournera à l'ancien maire de Québec, le maire Labeaume, qui avait dit que les gens prévenaient de travailler à Montréal parce que c'est là qu'était le milieu des affaires et vivre à Québec parce que c'est là où on faisait bien vivre.
Bien, c'est un peu et ce qui avait sauvé, le parallèle sûrement que vous le connaissez, la ville de Lille qui était, puis mes excuses aux amis de Lille, mais qui était vraiment poussiéreuse et ennuyeuse. Et comme elle est presque à équidistance entre Londres et Paris, reliée par des trains de très grande vitesse à relativement haute fréquence, c'est devenu un hub, un centre d'affaires et de résidence extraordinairement prisé.
Définitivement. Et c'est certain qu'un projet comme ça va aider les villes de Trois-Rivières, les villes de Kingston, à développer quand même quelque chose d'intéressant. Et même, on pourrait voir justement des gens qui décident de s'établir dans des villes comme Trois-Rivières ou Kingston et travailler à Montréal. Ou on peut voir aussi un couple qu'un travaille à Montréal, l'autre travaille à Toronto. Les deux pourraient s'établir à Kingston, par exemple, et être à moins de 90 minutes de travail pour les deux.
Ce genre de projet-là, malheureusement, c'est un film dans lequel, écoutez, moi, là, je vous partage ça, il y a 20 ans à peu près, je pense que c'était mon premier emploi ou mon deuxième, sur mon bureau, il y avait la proposition, je pense que c'était Via Rail, de faire une espèce de TGV. Ça fait 20 ou 25 ans, là. Est-ce qu'on est encore en train de jouer dans un film qui va finir comme d'habitude, finalement, ça n'arrivera pas, ou cette fois-ci, ça va aller de l'avant, que ce soit un TGF ou un TGV?
Bien, je vous dirais que présentement, on a vraiment c'est plus juste nos doigts dans l'engrenage, là, on est rendu à l'épaule. dans le processus de l'appel d'offres. Les compagnies sont déjà appelées à soumettre des propositions et le gouvernement est en train là de est quand même enclenché dans le processus d'approvisionnement. C'est la première fois qu'on se rend là dans l'histoire du Canada. Donc, on n'a jamais été aussi loin, mais il faut quand même pas oublier, c'est un gouvernement minoritaire et si jamais il y avait des élections et si jamais les libéraux ne retourneraient pas au pouvoir et que ce n'est pas le NPD ou le Bloc québécois qui rentre au pouvoir, si c'est les conservateurs, tout ça pourrait être mis en question et on pourrait retourner à la table des cinq. Mais on n'a jamais été aussi proche de la réalisation de ce projet.
Bon, mais comme dirait l'autre, restons optimistes. Mais avoir confiance, mais vérifier d'abord. Pierre Barriot, expert en planification des transports et chargé de cours à l'UDM, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. À bientôt.
Au plaisir.
Avec Guillaume Lavoie, pas de détour. Seulement un lien direct vers des solutions logiques.
Oublions jamais de placer les choses en perspective.
Ça aurait dû être une grande célébration.
C'est quand même gros ce qu'on évoque là.
Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé.
Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté.
Bonjour Luc.
Oui, bonjour Guillaume.
Luc, on se souvient là, lors de l'insurrection, de la tentative d'insurrection du 6 janvier, il y avait un groupe qu'on appelait les Oath Keepers. Et c'était un peu tombé sur le radar de la terre entière à ce moment-là. Il y en a qui avaient été arrêtés. Et là, il y a des nouvelles condamnations là, qui viennent d'arriver sur notre radar. Qu'est-ce qu'il y en a exactement?
Écoute, on en avait déjà eu parce qu'il s'agissait d'un gros groupe. Là, on avait 9 personnes au total qu'on accusait de complot séditieux. Il y a déjà un individu qui, lui, en échange de témoignages, avait plaidé coupable pour complot séditieux. À la fin du premier procès, on avait le meneur des Oath Keepers et un autre membre qui avait été reconnu coupable de complot séditieux. On en était donc à 3. Et depuis hier, on compte 4 nouveaux responsables de complot séditieux. Donc, on sait que autant démocrate que républicain, on fait, bien entendu, de la politique avec cet événement-là. On le récupère, on ajoute à ça, on saupoudre un peu de propagande par-dessus. Reste que quand on se tourne vers les faits, c'était plus qu'un groupe un peu trop enthousiaste qui s'est présenté le 6 janvier 2021. Moi, ce qui continue encore à me préoccuper, ou à tout le moins, en tout cas, à attirer mon attention, c'est qu'on sait, de par les travaux de la commission du 6 janvier 2020, des témoignages qui provenaient de républicains. On sait que des membres de la garde rapprochée de Donald Trump et M. Trump lui-même ont eu des communications avec les Oath Keepers et ont au moins un autre groupe d'extrême droite. On sait très bien que Merrick Garland attend toujours le travail ou les recommandations du procureur spécial, à savoir, va-t-on accuser éventuellement Donald Trump ou pas? Mais chaque reconnaissance, finalement, de sanctions, chaque reconnaissance des accusations, on en est rendu, je répète, là, à 7 au total reconnus coupables de complot séditieux. On va peut-être en ajouter d'autres, parce que l'autre groupe d'extrême droite qui a participé au 6 janvier, on n'a pas eu les procès encore. Est-ce que tout ça ne va pas nous ramener éventuellement, peut-être pas au sommet de la pyramide, à Donald Trump lui-même, mais peut-être à sa garde rapprochée ou à des gens qui travaillaient pour l'organisation, autant à la Maison-Blanche que pour le Parti républicain? C'est là où ça devient encore plus intéressant. Ça atteste du fait que c'est bel et bien grave et c'est pas une vue de l'esprit de s'imaginer que ce qui s'est passé le 6 janvier, c'est très important et que c'est de l'inédit en histoire américaine, mais c'est qu'il pourrait y avoir aussi d'autres avenues à emprunter à partir de ces sanctions-là, de ces jugements-là, pardon, Guillaume.
Oui, puis là, est-ce que tu le disais bien, est-ce qu'on va pouvoir remonter au sommet de la pyramide? Parce que voilà. Même s'il n'y a pas de preuves directes pour le président Trump, il y a quelqu'un qui faisait le message entre les deux, là, entre les Oath Keepers, voilà, pour coordonner la manif du 6 janvier, et quelqu'un qui travaillait pour le président des États-Unis. En soi, c'est déjà... Je veux dire, si on n'avait pas déjà vu la totale avec Trump, juste ça dans une autre décennie, ce serait assez pour que tout le système politique américain soit en train de discuter de ça, là.
Écoute, imaginons ça de notre côté de la frontière, là, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement, et qu'on arrive à faire la... Écoute, pour nos auditeurs, là, c'est très rare qu'on accuse des gens de complot séditieux. C'est exceptionnel. Et c'est encore une coche au-dessus, si on veut, hein, ou une exigence
c'est énorme. Alors juste, Luc, explique-nous, complot séditieux, qu'est-ce que ça veut dire là, pour les gens qui nous écoutent?
Écoute, on a dit, par exemple, c'est en lien direct avec ce qui a précédé, là, on a dit qu'il y a eu des tentatives de ne pas reconnaître les résultats de l'élection 2020. On l'a fait de façon légale, ça allait, on a eu des recours devant les tribunaux. De l'autre côté, M. Trump, en passant comme intermédiaire par M. Pence, c'est ce qu'on te demande de faire, Mike, c'est de ne pas reconnaître, de ne pas certifier les résultats. Et quand on le fait et qu'on va de l'avant, il y a ensuite cette meute qui se déchaîne et qui se lance sur le Capitole. C'est donc carrément une obstruction au système américain et c'est une tentative de renverser les résultats, rappelons-le, soulignons en caractère gras, les résultats légitimes d'une élection. Donc, on hésite parfois à parler de coup d'État. Hein? On est en 2023, c'est le genre de choses qu'on n'imaginait pas, tu le disais, il y a une dizaine d'années par rapport à des régimes démocratiques bien implantés, le solide en Occident. C'est ce à quoi on a eu droit le 6 janvier 2021.
C'est absolument à la fois épeurant, mais intéressant de voir quelle sera la suite. Luc, restons dans le domaine presque de l'épeurant, mais du beaucoup trop habituel. Déjà, les gens m'écrivaient, là, c'est les nouvelles des tueries aux États-Unis et au pluriel. Là. Déjà, on savait qu'il y en avait beaucoup, mais là, il y en a eu comme pas mal sur un petit coin de pays. Fais-nous le portrait de ça un peu, là.
Écoute, on a eu 3 tueries successives dans le même État. Donc, en Californie, 3 jours d'affilée, 3 tueries. On en est pour donner une bonne idée, encore une fois, je déteste ces statistiques-là, mais elles sont tellement importantes. On en est à 3 semaines dans le mois de janvier, donc en 2023, on en est à la 38e tuerie. La définition d'une tuerie étant quand il y a 4 victimes et plus. On en est déjà à 38, beaucoup plus de tueries que de journées qui se sont écoulées en 2023. Ce qui rend la problématique encore plus difficile à gérer en termes de couverture, d'analyse, puis pour tous ceux qui essaient de dire « que doit-on faire? Que va-t-on faire? » La Californie est un des États où, quand on parle de législation pour mieux encadrer l'accès aux armes, la circulation des armes, le port d'armes, la Californie est un des États les plus sévères là-dessus. Et Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, à qui on a déjà prêté et qu'on prête encore d'ailleurs des ambitions présidentielles, M. Newsom dit « Nous, en Californie, on a fait ce qu'on peut faire, on est au maximum du cadre législatif. » Ce que j'ai envie de reprocher à M. Newsom, c'est bien au plan politique de jouer cette carte-là et je pense qu'effectivement, au fédéral, les politiciens doivent intervenir. Mais ce qu'on ignore toujours dans ce temps-là et ce qu'on omet de faire, c'est de réaliser à quel point cette société-là, et ça c'est le prof d'histoire qui prend le relais cette fois-là, elle a une histoire qui est violente. La violence est dans leur ADN. Quand on regarde le nombre de guerres auxquelles les Américains ont participé, c'est sidérant. On a un collègue qui travaille pour le 24 heures qui s'appelle Julien Corona qui disait, écoute, c'est pas rien. Il y a plus de civils morts par arme aux États-Unis cette année, dans la dernière année, qu'il y en a eu sur le terrain en Ukraine.
C'est quand même incroyable.
Qui vit la guerre. Écoute, si ça, c'est pas hallucinant comme chiffre et si ça suffit pas à saisir les gens, ça montre bien le désarroi qui entoure la gestion ou en tout cas la quête de solutions, de remèdes ou d'amélioration à cette situation-là aux États-Unis. Ouais. Je répète, hein, c'est statistiquement appuyé. Plus de gens morts d'armes à feu aux États-Unis, ils sont pas en guerre sur le territoire qu'il y a de civils morts en Ukraine alors qu'on le sait. M. Poutine et les Russes sont responsables de l'invasion depuis février 2022.
C'est fascinant. Luc, je te pose une question. Je me doute de la réponse, mais je sais qu'à chaque fois que ce genre de tuerie-là, il y a, peut-être plus au Canada, au Québec, des gens qui disent « Ah ben voilà ce qui va être l'élément déclencheur d'une vaste réforme des droits et des restrictions touchant les armes à feu. Ça va changer, là, c'est sûr. » Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là qui partagent cet espoir-là, mais voici pourquoi ça n'arrivera pas, là?
Moi, j'ai arrêté comme commentateur, puis comme, sérieusement, amant des États-Unis. J'aime ce pays-là avec ses grandeurs et ses misères, j'y vais régulièrement. J'ai arrêté de rêver après la tuerie de Sandy Hook. Je me suis dit, si on entre dans une école primaire et qu'on massacre gratuitement des enfants, qu'une arme semi-automatique est entre les mains de quelqu'un qui, à l'évidence, ne devait pas en avoir, n'avait pas la santé nécessaire, la santé mentale nécessaire pour gérer ça, si ça n'a pas suffi à émouvoir les politiciens et les lobbyistes, c'est pas ce qui s'est déroulé en Californie dans les 3 derniers jours qui va changer la donne. Et j'insiste, n'insister que sur la question de le cadre législatif. N'insister que sur ça, c'est pas suffisant. La société américaine a un filet social qui est plein de trous. Il y a une question raciale qu'on hésite de confronter ou encore qu'on fait, mais en la polarisant à l'excès, comme c'est le cas actuellement aux États-Unis. Et on ajoute à ça un accès aux armes à feu puis une circulation d'armes légales et illégales qui est absolument aberrante. Et le chantier, il est vaste. Si on espère que ça va se régler dans la prochaine année ou dans un prochain mandat, si M. Biden revient ou qu'il ne revienne pas, les solutions sont à long terme. Et c'est une prise de conscience collective. En sont-ils capables? Le pays est né à partir de la Déclaration d'indépendance en 1776. Ils ne nous ont pas montré depuis tout ce temps-là qu'ils étaient capables d'en arriver à une solution. Le problème ne va au contraire qu'en empirant.
Oui, souvent, quand il y a des nouvelles, ça c'est démontré, plus il y a de nouvelles sur des tueries, des nouvelles tueries, plus la vente d'armes augmente, hein, comme si la manière de se protéger, c'était ça.
Et c'est un cercle vicieux, Guillaume, mais j'ai déjà dit, puis ça ne me gêne pas de le réaffirmer, à certains endroits aux États-Unis, si j'habitais là, considérant ce que je t'ai dit tout à l'heure sur l'historique, la culture, le filet social, j'aurais une arme à feu à la maison. Je n'en ai pas à Québec, je sens pas le besoin d'en avoir. Mais aux États-Unis, j'en aurais une à la maison.
Mais je te le reproche pas, j'ai des amis en Caroline du Nord, de bons démocrates qui se croient à gauche là, par rapport au reste, qui m'ont dit récemment, nous pensons à acheter une arme. Et c'est pas parce qu'ils veulent aller au club de tir, là. C'est par volonté ou croyance qu'ils devront peut-être recourir à ça pour se protéger. Luc, d'un côté, il nous reste pas tant de temps que ça, fait que c'est peut-être une bonne nouvelle, mais je veux qu'on en parle. Écoute, il y a un débat aux États-Unis qui est surréel, qui enflamme là, les Fox News et les autres. Et là, mesdames et messieurs, ce n'est pas des blagues, les MMM. Alors, parle-nous de ça, là.
Écoute, c'est à la fois loufoque, totalement absurde, et en même temps, c'est important comme sujet à aborder. Toi et moi, on a étudié pendant des années pour finir par parler de bonbons à la radio et à la télé. les fameux M&M's, on a voulu, comme c'est le cas de Bini, quand on fait de la mise en marché, quand on veut revamper un peu la marque, quand on veut moderniser, quand on étudie notre clientèle, on a dit, écoutez, on va marquer le coup, on va se servir de nos fameux bonbons, on va en faire des personnages qui vont souligner un certain nombre de choses. Entre autres, ce qui a soulevé beaucoup de controverses, on a voulu souligner ces femmes fortes qui se démarquent. Donc, et on s'est mis à afficher sur les pochettes, ces fameuses enveloppes de M&M, des personnages dont les caractéristiques ont déplu énormément, en grande majorité, aux conservateurs, à des conservateurs en particulier. Et le chef de file de ce mouvement qui considère que maintenant les M&M sont trop woke et que c'est une menace pour la société américaine, c'est Tucker Carlson. Donc, ça ne s'invente pas. Il est littéralement parti en guerre et ça a créé un mouvement de résistance. Grosso modo, à mort les woke et ça passe par les M&M. Et M&M est tellement pris, donc c'est la compagnie, c'est Mars qui gère les M&M. Et la compagnie a dit, écoutez, nos commémorations, là, puis la diversité, l'inclusion, on va mettre ça sur la glace en attendant, puis vous allez, en très mauvais français, manger vos M&M straight. Donc, on va vous les présenter uniquement avec les couleurs d'origine, sans leur associer des qualités physiques, par exemple, que certains ont interprétées de toutes sortes de manières. M. Carlson, il a vu des lesbiennes, il a vu une ode aux obèses, une identité de genre trop floue. Il y a imaginé un certain nombre de choses et honnêtement, pour avoir déjà dégusté des M&M, c'est autre chose que, un, il faudrait pas que mes enfants en mangent trop, puis deux, c'est pas si bon que ça. M. Carlson, il y avait un symbole, je suis superficiel, M. Carlson, il y avait un symbole beaucoup plus lourd et grave que ça.
Écoute, Luc, toi et moi, nous sommes des amoureux de cette société, de l'histoire de ce pays.
Ouais,
et là, vraiment, je pense que les États-Unis rivalisent d'ingéniosité pour tester notre amour dans ces derniers retranchements. Alors, là-dessus...
Ah, quelle belle formule pour terminer.
Homer Simpson disait, on se fait pas d'amis en mangeant de la salade. Peut-être on se fait plus d'amis en mangeant des M&M non plus. OK, on se reparle demain. Bye-bye, Luc.
Bonne fête de journée, Guillaume.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Le morceau manquant votre casse-tête. Le petit détail de plus à votre information. La valeur ajoutée à votre écoute. Son nom, Guillaume Lavoie. Cube Radio.
Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Steve Fortin, Marie-Montpetit, bonjour.
Salut.
Salut.
Bon, bonjour à vous deux. Hey, je vous lance avec une question rhétorique à laquelle, par définition, il n'y a pas vraiment de réponse. Ça sert à quoi le NPD? C'est une question un peu méchante. Oh. Steve, je commence avec toi, je fais un peu exprès.
Question quiz.
Oui, Alexandre Boulris, qui est député fédéral de Rosemont-la-Petite-Patrie, donc du NPD, a dit que là, en gros, il n'y en avait pas de problème avec l'idée de vouloir baliser le recours à la clause nonobstant. Il doit être pas mal dans les seules voix québécoises qui dit ça. Est-ce que le NPD du Canada est branché sur le Québec?
Je me demande qu'est-ce qui s'est passé avec, Alex Boulris. Je l'avais connu à l'époque où on avait formé le NPD, ben le Québec solidaire, NPD. On est rendu, c'est tellement rendu proche Québec solidaire puis NPD au fédéral.
C'est un lapsus freudien, non?
Je suis désolé, c'est peut-être la couleur.
Moi, mais, je pense que Steve, il partage la même passion pour les deux.
Je reconnais plus le Alex Boulris que j'avais côtoyé de loin là, à cette époque-là d'un groupe de gauche. Puis ce que je vois en ce moment au NPD, puis tu sais, c'est une chose de dire je vais adopter ou je vais épouser la ligne de mon parti, mais tu sais, il fut un temps où ce caucus-là, il y avait un caucus en 2011, un caucus québécois fort dans le NPD, même que c'est par le Québec qu'on voyait à l'époque où il y avait eu la vague orange, une renaissance de ce parti-là nationalement, mais en passant par le Québec tellement on pensait qu'on était capable de jeter des bases solides. Puis rappelons-nous de Ruth Hélène Brosseau, de qui on s'était moqué peut-être un petit peu au départ parce qu'elle avait eu elle avait été élue députée en dépit du fait qu'elle elle s'était même pas présentée dans son comté. Je pense qu'elle savait même pas c'était où. Puis au final, elle a fait un travail de députée qui a été très apprécié par les différents intervenants, par exemple au municipal dans son comté. Puis là, on est rendu en quelque part d'autre complètement où le NPD a pris un virage qui me fait penser un petit peu au virage qui a été pris par les partis verts du Canada et du Québec sur les questions identitaires, qui les éloignent de plus en plus finalement du Québec. Et dans ce cas-ci, on se serait attendu à ce que Alex Boulris puisse être un petit peu comme une genre de caution des consensus québécois à l'intérieur de son parti. On lui demande pas d'aller aussi loin que le Bloc québécois ou de devenir une pâle copie d'un député du Bloc. C'est pas ça qu'on veut. Mais il me semble que quand j'écoute tous les partis en ce moment sur cette question-là, il se dégage quelque chose qui a pris un peu naissance en 1982 avec le rapatriement de la Constitution, mais qui va jusqu'à maintenant parce qu'il n'y a pas un seul parti qui l'a signé, cette Constitution-là. Puis au Québec, ça a fait consensus, ça. Et là, ce qui est en train de se passer, d'une drôle de façon, c'est que le petit peu d'espace de décision qui restait post-82 qui avait été prévu par le père Trudeau, ben le fils est en train de travailler à réduire ça comme peau de chagrin. Puis, on aurait aimé que Alex Boulris, dans son parti, soit une genre de caution, puis qu'il se rallie un petit peu à ce qui se passe ici, mais c'est pas ça. Il a décidé que, finalement, il couchait directement dans le lit des libéraux, puis on se demande, rendu là, pourquoi ces deux partis-là ne fusionnent pas, tout simplement, parce que il y a de moins en moins de raisons, il y a de moins en moins de choses qui les éloignent, puis je le lis beaucoup, ça, dans les commentaires que je vois là au Canada anglais, dans les articles que je lis, beaucoup d'observateurs se demandent de plus en plus pourquoi ces deux partis-là, finalement, ne font pas que fusionner.
Mais donc, Justin Trudeau braque à gauche. Son geste sur la clause nonobstant, c'était clairement pour protéger son flanc du NPD. Alors, Marie, est-ce que le NPD va être encore un facteur ou Justin Trudeau va manger son lunch complètement, là?
Ben, écoute, tu sais, moi, je suis vraiment pas surprise parce que Steve, ce qu'il nous dit, c'est pas à quoi, tu sais, juste à quoi sert le NPD, c'est à quoi sert Monsieur Boulris, là, tu sais, dans l'équation comme représentant du Québec. Mais tu sais, tant qu'à ça, l'ensemble des députés du Parti libéral du Québec, du Canada, excuse-moi, qui sont élus aussi au Québec, sont dans la même situation. Puis, tu sais, faut pas perdre. Moi, comme je dis, je trouve pas ça très surprenant dans la mesure où le NPD, historiquement, c'est un parti qui est relativement, pour ne pas dire très centralisateur. Donc, tu sais, à la base, c'est pas une position qui est surprenante de leur part. Une fois qu'on a dit ça, ben, tu sais, si on exclut l'implication que peut avoir la clause non-obstant parce que on sait pas ni si ni quand le gouvernement fédéral va s'adresser à la Cour. On peut pas prendre pour acquis non plus que la Cour suprême va choisir d'interdire l'utilisation de la clause non-obstant alors que ça se fait depuis 40 ans. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que politiquement, tu as le voyage de noces, je sais pas comment on peut appeler ça, entre le NPD puis le PSC, qui la belle histoire d'amour ou en tout cas ce flirt débutant qui continue. Puis de l'autre côté, ben là on reprend les bonnes vieilles chicanes. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu sur ce genre d'enjeu-là, les bonnes vieilles chicanes fédérales provinciales entre Justin Trudeau qui est quand même relativement à la veille d'une élection fédérale. Donc là, ça le met dans une posture de « je défends la veuve, l'orphelin, les minorités », posture qui lui va toujours très bien. Et de l'autre côté, tu as François Legault qui, lui, est à la veille d'une retour à l'Assemblée nationale, qui le met dans sa posture de capitaine Québec et « je défends la posture Québec ». Donc, on a deux premiers ministres qui sont extrêmement gagnants dans cette situation-là. Une fois qu'on a dit ça, je rallie assez bien... je pense que c'est Michel David dans Le Devoir qui le mentionnait ce matin, José Legault aussi dans le journal de Montréal, qui tous deux disaient, tu sais, les Québécois en ont plein les bras entre l'inflation, les taux hypothécaires, la pénurie de main-d'œuvre, la crise du système de santé. Je suis pas sûre que ces enjeux-là vont ébranler beaucoup le quotidien des Québécois. Là, je pense pas que personne est assis sur le bout de sa chaise en train de voir comment ça va se finir comme histoire. Là.
Ouais, peut-être que finalement, c'est les thèmes de Pierre Poilievre qui vont l'emporter. Lui qui a décidé clairement de rester si on avait des voix là, comme sur l'autoroute, là, lui, c'est l'inflation, l'insécurité économique, la frustration par rapport au coût de la vie, ce dont il veut parler, puis il essaie de rester très, très loin de tout le reste. Fait qu'en gros, ce que je vous entends...
Je sais pas si vous avez vu le sondage très intéressant sur qui sont on a sondé des gens de tous les partis à travers le Canada. Quel est votre premier ministre du Canada préféré? Puis quand on regarde du côté des sympathisants conservateurs au Québec, Brian Mulroney est largement en avance au Québec. Puis j'ai vu ce commentaire-là passer. Pierre Poilievre aimerait beaucoup séduire l'électorat qui avait jadis appuyé un peu, mais beaucoup, beaucoup Brian Mulroney.
Ouais, ben là, il est mieux d'aller lire son livre d'histoire jusqu'au bout, là, parce qu'il va voir que la base électorale, Brian Mulroney, c'est un progressiste conservateur. Pas sûr qu'on peut dire ça de Pierre Poilievre.
On n'est pas dans le même profil de personnage.
Non. Puis pas la même hauteur non plus. En tout cas, pas jusqu'à maintenant, là. changeons de capitale. Allons à Québec. Alors, François Legault, qui, tel un président de la française, rencontre les différents chefs de parti, chacun leur tour. Il les a tous faits. Il en restait un. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Alors, qu'est-ce qui va sortir de là? Est-ce que l'exercice, ça va avoir été très payant pour François Legault? Marie, comment tu vois ça?
Ben oui, c'est super payant pour François Legault. C'est comme si c'est comme s'il venait d'obtenir les questions de l'examen avant de se présenter à l'examen. Parce que dans le fond, il a rencontré les chefs de parti. Tu sais, là, la période de questions, là, ça recommence. Là. Donc, c'est plus d'une trentaine de questions auxquelles le premier ministre doit faire front chaque semaine avec les trois périodes de questions qu'il y a. Puis là, il est allé voir. Moi, là, on s'était tout fait conseiller ça comme ministre. On se faisait toujours dire, appelle ton vis-à-vis au PQ puis à la CAQ, ton porte-parole, ton critique, fais une bonne rencontre avec. Puis là, tu vas avoir toutes ses priorités puis les enjeux qui le préoccupent puis qui l'inquiètent. Ça te permet évidemment, ben oui, de travailler en collaboration avec et tout, mais ça te permet aussi de te préparer pour des questions champ gauche qui pourraient arriver dans une période de questions. Donc là, François Legault vient de faire ses rencontres avec les quatre chefs de parti. Ça lui permet de vérifier est-ce que les chefs de parti sont toujours Est-ce qu'il loge encore sur les mêmes priorités que lors de la dernière législature, lors de la campagne électorale, ou est-ce qu'ils ont changé de discours? Et là, ça lui permet de, ça va lui donner tout un avantage. Il va se présenter en période de questions dans quelques jours avec des S, là. C'est sûr qu'il va être prêt, là. Il peut monter toutes ses réponses d'avance.
Steve, est-ce que tu penses que ça va être très payant pour lui, ou à un moment donné, c'est des listes d'épicerie auxquelles François Legault pourra clairement pas dire oui à tout, là?
Ben, OK, oui, c'est vrai, il y a un aperçu de ce dont les partis veulent parler, mais c'est pas exclusif comme liste, puis il va y avoir d'autres défis qui vont se présenter. Puis on va le dire de toute façon, là, moi, quand je regarde ça, c'est vrai que François Legault fait un bon coup, il rencontre tous ces gens-là. Par la bande aussi, on le rappellera, il a donné une certaine légitimité à Éric Duhaime qui lui avait refusé en lui donnant les clés de l'Assemblée nationale, puis un bureau, puis pouvoir faire ces conférences de presse-là. Donc, il y a quand même eu plus de autour de 500 000 voix. Donc, on dit, on va inviter Éric Duhaime. Mais dans tout ça, là, dans cet exercice-là, François Legault, il est capable aussi de jauger un petit peu de l'état des forces de ses adversaires politiques. Puis, il va réussir aussi à déterminer, selon les différents sujets, quel sera son adversaire principal. C'est sur les questions identitaires, il sait déjà ça va être qui son adversaire principal. Par rapport à la joute aussi à l'Assemblée nationale, on le sait qu'il aime bien être capable d'instaurer une espèce de duel entre lui et Gabriel Nadeau-Dubois parce que ça le sert bien.
Oui, mais c'est les frères ennemis, les deux, c'est-à-dire autant le PQ et le Parti libéral du Québec se nourrissaient un l'autre. Oui. Ce que François Legault veut faire, c'est de s'assurer que son adversaire soit QS parce qu'il peut manger le lunch des deux autres, là.
Oui, il est pas fou vas-y.
C'est un enjeu de wedge issue, tu sais. Non, mais c'est un enjeu de wedge issue, là. Quand t'es en campagne électorale, oui, tu sais, on l'a entendu pendant la campagne électorale, à un moment donné, les gens disent, ben, c'est tout pareil. Donc, c'est quoi qui va mobiliser comme électeur, comme citoyen à me déplacer puis à aller voter? Ben, on vote souvent contre quelque chose ou on va voter parce qu'il y a une crainte. Comme je le dis, c'est le référendum, ça a été ça pendant des années. Après ça, il y a eu des questions plus identitaires comme la charte des valeurs qui a mobilisé beaucoup, beaucoup pour faire battre le PQ en 2014. Donc, François Legault, il fait 20 ans qu'il fait de la politique, il sait très bien comment ça fonctionne. De toute façon, le PLQ, c'est ça, il a mangé le lunch puis il n'y a pas de différenciation. Donc, faut qu'il y ait laisser entendre que le parti qui pourrait prendre le pouvoir est celui qui est le plus loin des valeurs de ses propres électeurs.
Ah, ça, c'est bien dit. Je vous arrête là-dessus, on manque de temps, mais mettez ça sur votre radar, là, parce que nos auditeurs vont vouloir vous entendre. C'est quoi l'avenir du Parti libéral du Québec et sur quelle base ça doit être reconstruit, s'il y en a un? On va se reparler de ça pour sûr. Marie, mon petit, et Steve Fortin, merci beaucoup. Bye-bye.
Bye, salut. À demain.
Vous écoutez Guillaume Lavoie. Le professeur qu'on aurait tous voulu avoir.
Il y a ces nouvelles qui sont absolument pas plaisantes, mais le pire serait de ne pas savoir. Alors, écoutez, le nombre de piétons blessés lors d'accidents routiers, non seulement est en hausse, mais est véritablement bien reparti en hausse. Et les chiffres ont été rendus publics hier par le service de police de la Ville de Montréal. En gros, là, je vous en partage là, deux. Le nombre de piétons qui sont légèrement blessés en 2022, c'est une augmentation de presque 12%, et le nombre de piétons gravement blessés est en augmentation de 56%. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait, mais c'est sûr qu'on le fait mal ou clairement pas assez. Pour en parler, pour faire le tour de ça, puis essayer de voir un peu de lumière au bout du tunnel, Sandrine Cabana-Degani, qui est la directrice générale de Piétons Québec. Bonjour, madame.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, les chiffres que je viens de donner, là, ils semblent absolument énormes et effarants. Est-ce que j'exagère ou c'est vraiment ça le portrait?
Bien, c'est sûr qu'on sait que l'année 2021 et l'année 2020 ont été marquées par la pandémie. Donc, il y a eu moins de blessures piétons puis moins de décès piétons. Par contre, on sait aussi que l'année 2022 rejoint pas mal les statistiques des pires années pour les piétons, qui étaient 2019.
Je veux juste vous arrêter là une seconde. Fait que ce que vous nous dites, là, c'est... Là, tout le monde va... Parce que c'est dans tous les dossiers, là, la pandémie, là, c'est en cas de... Quand vous avez une question difficile, dites que c'est la pandémie. Si on enlève les années de la pandémie, on est aussi pire qu'avant la pandémie, là. C'est ça que vous nous dites, là.
C'est ça. C'est ce qui est terrible comme constat, c'est que malheureusement, les statistiques là, nous démontrent que les années pandémiques, puis le bilan qui s'était amélioré pour les piétons n'était qu'une brève parenthèse due notamment au confinement, au couvre-feu, donc la présence de moins de voitures sur les routes également. Puis que malheureusement, là, on retrouve les pires années qu'on a vécues, notamment 2019, qui était une terrible année pour les piétons. C'est vraiment malheureux là, de voir ces statistiques-là cette année.
Mais là, c'est comme si vous nous disiez que la seule affaire qui a fonctionné, c'est de demander aux gens de rester chez eux. Je vais vous le dire brutalement, là. Coudon, ceux dont c'est le travail, là, ils font quoi de leur journée?
C'est sûr que ce qu'on sait en sécurité routière, c'est que ce qui marche le mieux pour assurer la sécurité de tout le monde, c'est diminuer l'exposition au risque. Puis l'exposition au risque, c'est la présence de voitures sur les routes. Donc là, c'est sûr qu'on se retrouvait à avoir un impact important avec la pandémie sur la présence des voitures sur nos routes. Par contre, on sait qu'il y a d'autres moyens de diminuer là, l'exposition au risque pour les piétons, notamment par les aménagements. Donc, en aménageant des infrastructures comme des saillies de trottoirs, des dodanes, en réduisant le trafic de transit dans les quartiers. Donc, il y a toutes sortes d'autres mesures qui peuvent avoir un impact sur l'exposition au risque, qu'on devrait accélérer là, si on veut avoir un impact là, sur le bilan routier.
Mais là, Mme Sandrine Cavanna-Degani, pendant la pandémie, je comprends que les gens ne pouvaient pas sortir, mais ça ne s'applique pas au col bleu pour les travaux de la ville. Ça veut dire qu'en gros, théoriquement, on a eu le temps de la pandémie pour prendre l'avance, hein, parce que là, il n'y avait pas de piétons, il y avait très peu de voitures, fait que là, on peut en faire là, des travaux. Là. Puis on a toujours des chiffres aussi mauvais. Comment ça se fait qu'on se traîne les pieds à ce point-là? Là? Il doit en manquer des aménagements. On s'en est parlé plusieurs fois dans Ville-Marie, c'est assez l'enfer. À un moment donné, est-ce qu'on peut commencer à dire un tel, une telle, telle organisation, telle institution se traîne les pieds?
Mais il y a un énorme rattrapage à faire si on veut améliorer la sécurité des piétons, puis tout le monde doit travailler de façon concertée. C'est sûr que les municipalités ont un grand rôle à jouer, puis elles doivent accélérer la mise en œuvre d'actions, mais leur responsabilité ne cesse d'augmenter et le financement ne vient pas avec. C'est pour ça que nous, on demande aussi que le ministère des Transports du Québec et que le gouvernement du Québec prennent ses responsabilités en sécurité routière, soutiennent les municipalités dans ce rattrapage qui doit être fait, donc l'accélération des mesures là, physiques pour sécuriser les milieux de vie, mais aussi travaille sur ses propres dossiers, notamment les normes d'aménagement, là, qui on s'en est déjà parlé.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un cahier général, là. Le pire, c'est que ça ne s'applique pas à Montréal, ça. Où on a des propres normes, on a assez de monde pour faire ça. Il n'y a peut-être pas assez de pieds sur certains derrière, mais dans un paquet de petites villes où ils n'ont pas de service d'ingénierie propre, on s'en remet au livre de Québec, c'est-à-dire du gouvernement du Québec, qui, lui, a été écrit clairement pour une autre décennie. Ce bout-là, puis il y avait la manif ce matin, là, est-ce qu'on a des indications qu'on va le revoir, ce livre-là?
En fait, c'est la demande qu'on fait là, au ministère des Transports et de la Mobilité durable. On sait qu'il y a une ouverture, c'était dans la politique de mobilité durable qui a été adoptée en 2018, la nécessité de revoir ces normes-là pour qu'elles soient mieux adaptées aux piétons et aux cyclistes. Malheureusement, près de 5 ans plus tard, on attend toujours cette révision-là. Donc là, on ose croire que la mobilisation citoyenne à laquelle on assiste là, ces derniers jours, que les tristes bilans qu'on voit, les nombreuses collisions graves et mortelles qu'il y a eu lieu avec les piétons, que ça va faire accélérer le dossier et le remettre là, sur le dessus de la pile parce qu'on ne peut pas passer chaque minute et chaque intervention qu'on fait sans améliorer la sécurité des piétons. Bien, ça va être pendant 10, 15, 20 ans qu'on va créer de l'insécurité pour les piétons dans nos milieux.
Mais là, peut-être que je vous trouve gentille parce que à un moment donné, une annonce de vouloir revoir quelque chose qui date d'il y a 5 ans, ça marche plus, là.
Oui, mais c'est pour ça que je dis que ça doit être une action concertée, hein, parce que c'est sûr que les instances gouvernementales ont leur rôle à jouer, mais les citoyens aussi doivent soutenir ces mesures-là, parce que souvent, on veut tous hein, plus de sécurité routière. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais après, quand on arrive avec les interventions concrètes, quand on change les sens de circulation, quand on bloque la circulation de transit, mais là, c'est pas tout le monde qui appuie ces mesures-là. Donc, il faut aussi être conséquent, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective qu'on refuse d'accepter ces collisions graves et mortelles-là et qu'on est prêt à vivre avec les mesures qui doivent être mises en place pour assurer la sécurité de tout le monde.
Oui. Madame Sandra, Sandrine Cavanagh-Degani, mettons-nous d'accord sur une chose, le crime le plus grave, pire que se traîner les pieds, c'est de promettre quelque chose puis pas le livrer. Puis là-dessus, franchement, je pense que collectivement, on est dû pour une colère mobilisatrice. Ça va faire les discours gentils de ceux qui peuvent décider, la main sur le cœur, les larmes de crocodile. Si vous n'êtes pas en train d'avoir un bilan avec des actions concrètes, de choses réalisées, vous êtes véritablement partie de la famille des fripons et nous allons vous dénoncer. Sandrine Cavanagh-Degani, directrice générale de Piétons Québec, merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Pour lui, les plus petits détails comptent. La perfection n'est pas ce monde, mais il y a quand même Guillaume Lavoie. Cube Radio.
En direct à LCN.
C'est le moment d'aller retrouver Guillaume Lavoie, animateur à Cube Radio. Bon après-midi, Guillaume.
Bonjour, Julie.
Bon, malheureusement, il y a eu une autre fusillade hier aux États-Unis, encore une fois en Californie. Au moins 7 morts. Samedi, fusillade toujours en Californie, au moins 11 morts. Et Joe Biden, qui a relancé aujourd'hui un appel au Congrès, demande d'agir vite pour interdire ou du moins restreindre l'accès aux fusils d'assaut. Mais l'augmentation des fusillades, Guillaume, ça a un effet pervers. Au lieu de dire aux gens, au lieu de leur faire comprendre que ça prendrait peut-être un peu moins d'armes à feu aux États-Unis, ça provoque l'effet contraire, provoque la hausse des ventes d'armes à feu.
Oui, parce que les gens finissent par avoir une certaine crainte générale. Si vous n'avez pas confiance profondément dans les institutions qui, normalement, doivent vous protéger et vous défendre, bien, vous vous dites, il va falloir que je m'en remette à moi pour protéger ma personne, ma famille. Moi, j'ai des amis à gauche, en Caroline du Nord, qui m'ont avoué récemment qu'ils pensaient à s'acheter une arme pour se protéger. On est rendu là. Je vais vous donner deux chiffres qui font peut-être peur encore plus. L'an dernier, il y a eu... Et vous savez, quand on parle d'une tuerie de masse, ça veut dire 3 victimes et plus. On les comptabilise comme ça. L'an dernier, alors qu'il y avait 365 jours dans l'année, il y en a eu 645. Et dans l'année 2023, cette année, nous sommes au jour 24, nous sommes rendus à 39 tuerie. Alors, c'est un problème extraordinairement large, grave, dans toutes les strates de la société américaine. Et souvent, la pulsion, c'est de dire, bien, celle-là va faire que ça va changer. Il y a l'appel du président. Je peux vous dire que lui-même ne doit pas y croire plus que moi. Parce que pour que ça change, considérant les interprétations successives de la Cour suprême, il faut aller jouer dans la Constitution. Et pour ça, vous avez besoin du 2/3 de la Chambre, du 2/3 du Sénat, et du 3/4 des États. Alors, avec une chambre à majorité républicaine, oubliez ça, ça n'arrivera pas. Et même, et là, c'est plus rendu qu'un problème d'armes à feu. C'est un problème de santé mentale, d'inégalité, de méfiance envers les institutions. Je vous dirais que le début d'une solution ici est même pas proche d'être sur la table.
Et si ça n'a pas changé après la tuerie à l'école primaire de Sandy Hook, où il y avait eu une vingtaine d'enfants qui étaient morts, au Texas, il n'y a pas si longtemps, une autre école primaire qui avait été visée, la cible d'un tireur fou. Et encore là, il y avait des policiers qui étaient intervenus, des policiers qui étaient armés, mais ils ne savaient pas comment agir. Alors, tu as beau avoir une arme à feu, si tu n'es pas capable d'intervenir vis-à-vis un tireur fou, ça ne donne pas grand-chose.
Et ça donne une dérive dans l'autre sens qui finit par être complètement déconnectée de la réalité. Là. C'est-à-dire que ben, il faut se protéger, alors on parle d'armer les profs. Et ça, c'est des vraies propositions qui circulent aux États-Unis.
Ouais.
D'avoir des portes blindées ou des fenêtres pare-balles pour les écoles, avec une seule entrée, presque, en fait, c'est des prisons, mais qu'on appelle des écoles. C'est... Alors, ça nous amène dans une espèce de cercle vicieux où la seule manière de se protéger, c'est encore plus de sécurité. Dans un contexte comme ça, ne serait-ce qu'une minute, prenons la peine de voir combien nous sommes chanceux et combien c'est précieux de vivre dans une société aussi peu violente que la nôtre, malgré l'augmentation de la violence par arme à feu qui arrive, là.
Hey, Guillaume, est-ce que ça peut avoir une incidence sur le nombre de visiteurs qui vont se présenter éventuellement aux États-Unis en se disant, ben moi, je ne peux pas aller aux États-Unis parce que à peu près tout le monde, on peut penser qu'à peu près tout le monde a une arme à feu. Il y a plus d'armes à feu aux États-Unis que d'Américains. Est-ce que ça peut éventuellement jouer contre le tourisme américain?
Je croirais pas, et ma réponse ici ou mon explication va être un peu cynique, c'est que il n'y a rien de nouveau dans le contexte américain actuellement, là. Je vous disais, l'an dernier, on était à 645 tueries, pas meurtres, tueries pour l'année 2022. Eh bien, les années précédentes, c'était même un peu plus. Alors, c'est une société, toute proportion gardée, beaucoup plus violente que d'autres sociétés occidentales ou modernes. Et là-dessus, on est plutôt dans la continuité d'une certaine norme dont on entend parler, parce que là, il y en a trois pas tellement loin dans le même état là, en trois jours, mais ironiquement ou tristement, il n'y a rien de nouveau sous le ciel américain face à ça. Là.
Malheureusement. Guillaume, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.
Au plaisir. Voilà, c'est tout pour nous. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Merci à toute l'équipe qui a rendu ça possible. Je vous retrouve demain. Au plaisir.
Cube Radio.